Studio Tamani, les voix du Mali.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
8h à Bamako et partout au Mali, vous êtes à l'écoute de Studio Tamani. Mesdames, messieurs, bonjour, voici le journal. Au sommaire de cette édition, trois soldats ivoiriens parmi les 49 détenus au Mali ont recouvré la liberté. Toutes des femmes, la libération de ces trois militaires est un geste humanitaire du président de la transition, Assimi Goïta, a indiqué la médiation togolaise. Le président burkinabé, lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, a effectué ce samedi une visite au Mali. Le chef de l'État burkinabé et son homologue malien ont échangé sur le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. Sport football, le Mali a respectivement validé son ticket pour la phase finale du Champ d'Algérie 2023 et pour les demi-finales du tournoi UEFA U20 en Mauritanie. Les détails à suivre dans ce journal qui vous sera présenté par Sikou Gadjigo, mis en nom de Mamadi Keïta. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Mali a libéré trois femmes parmi les 49 militaires ivoiriens détenus depuis le 10 juillet dernier. Elles ont été officiellement remises aux autorités ivoiriennes. L'annonce a été faite ce samedi 3 septembre par le ministre togolais des Affaires étrangères, le professeur Robert Dussey, dont le pays est médiateur dans cette crise. C'était à la faveur d'une conférence de presse à Lomé, au Togo, en présence de son homologue malien et du ministre directeur du cabinet à la présidence ivoirienne. Le détail avec Moussa Malé Sissoko.
Sous la médiation togolaise, les autorités maliennes ont procédé à la libération des trois militaires sur les 49 détenus accusés de mercenariat. Pour le chef de la diplomatie togolaise, le colonel Assimi Goïta et son gouvernement ont libéré ces soldats féminins aux fins humanitaires. Professeur Robert Dussey a déclaré que son président Fornia Simbé s'est réjoui de cette action du président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Par ailleurs, il a ajouté que les discussions sont en cours pour que très rapidement les autres soldats en détention puissent retrouver leur liberté totale. Mais un peu plus tôt dans la journée, le procureur de la commune 6 de Bamako avait annoncé cette libération. Dans un communiqué, il a précisé que le magistrat en charge de l'affaire avait approuvé les 31 août, la libération des trois soldates et l'abandon des charges contre elles. Le ministre directeur du cabinet à la présidence ivoirienne, dans sa déclaration, déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. Fidel Sarasoro rappelle que la Côte d'Ivoire s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali.
C'est la diplomatie qui a prévalu dans cette libération partielle des soldats ivoiriens, c'est du moins ce que pense N'Golo Diarra, enseignant-chercheur à l'Université des sciences politiques de Bamako. L'observateur politique estime qu'il est important de préconiser le dialogue comme remède aux tensions entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Il est joint au téléphone par Moussa Malé Sissoko.
De toutes les façons, il y a des raisons d'État ici qu'on peut avancer. Il y a plusieurs efforts qui ont été rentrés en ligne de compte par rapport à la médiation togolaise. Il y a aussi des sociétés civiles impliquées dedans. On peut dire que c'est le début classement de l'affaire. On peut peut-être penser comme ça. Il faut que les deux autorités arrivent à se comprendre. L'Afrique n'a plus besoin vraiment d'un différent interétatique. On pense bien que c'est par la voie diplomatique qu'on peut arriver à solutionner la situation. Puisque c'est une affaire qui est devant les juges, on ne va pas se prononcer trop sur la dessus, mais de toutes les façons, ce qui est mieux, il faut que vraiment les autorités arrivent à se comprendre sur la question.
8h04, vous pouvez réagir à ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le président burkinabé, lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, était ce samedi au Mali. Au cours de sa visite de quelques heures, le président de la transition au Burkina Faso et son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, ont échangé sur la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment le renforcement de la sécurité au niveau des frontières Mali-Burkina. Les explications de Sita Sidibé.
C'est la première visite officielle du président burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Abima au Mali depuis son arrivée au pouvoir le 24 janvier 2022. Après les accueils protocolaires, les deux chefs d'État ont largement échangé sur plusieurs sujets d'intérêt dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays qui partagent la même frontière. Il s'agit de la situation sociopolitique et sécuritaire. Au cours de cette visite d'amitié et de travail, les présidents maliens et burkinabé ont évoqué les points pouvant aboutir à leur coopération militaire. Le président du Burkina Faso a expliqué que nous avons effectué une visite d'amitié dans le cadre de la coopération qui existe entre le Mali et le Burkina Faso. Le président d'Amiba poursuit qu'il entend toujours renforcer ses liens avec le Mali très prochainement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, afin de relever davantage les défis sécuritaires auxquels les deux peuples sont confrontés. Au terme donc de cette visite de quelques heures, les deux chefs d'État se sont réjouis des échanges fructueux qu'ils ont eus.
Cita Sidibé, la sixième réunion de haut niveau du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger s'est tenue vendredi dernier à Bamako. Elle a été présidée par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtam Lamamra. La rencontre a réuni la partie malienne et les mouvements signataires de l'accord. Elles ont toutes réaffirmé leur engagement pour l'accord de paix. Le reportage de Maman Babakunta.
Cette réunion de haut niveau a été l'occasion pour les membres du CSA de faire le point sur l'état de la mise en œuvre de l'accord. La situation sécuritaire et humanitaire du pays ont également fait l'objet d'expressions fortes. Mahamadou Diouara, chef de cabinet du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale.
C'est un processus de paix dans lequel on aura toujours des questions à régler entre nous jusqu'à ce qu'on atteigne le point final. Ce qui est plus important qu'on retient, c'est que toutes les parties maliennes se sont renouvelées une confiance mutuelle. Et on sent dans la dynamique de s'accorder le bénéfice de la bonne foi mutuelle dans le traitement des questions.
Au cours de cette réunion, les différentes parties se sont engagées à procéder à la prise en charge des dispositions politico-institutionnelles dans la nouvelle constitution. Une avancée saluée par la coordination des mouvements de l'Azawad. Ataï Ag Mohamed, membre de la CEMA.
C'est une opportunité qui a été un peu interrompue, mais qui a été aussi placée à un niveau supérieur. Nous ne pouvons que nous en tenir aux engagements et à la bonne volonté. C'est difficile de dire voilà, mais ce sont les actes qui comptent. Maintenant, il faut aller aux actes. Le débat sur l'intelligence, la mesquinerie est arrêté. Ça, c'est une avancée majeure.
Pour Mohamed Ould Matali de la plateforme, cette rencontre est un grand espoir. Cependant, il souhaite très rapidement la mise en œuvre de la commission ad hoc.
Ça fait longtemps qu'on ne se réunit pas. Et voilà qu'on se retrouve très rapidement après la réunion du nouveau décisionnel. Donc maintenant, on est au CSA à un niveau encore très élevé. Donc ça veut dire que tout le monde est ensemble pour essayer de raccorder les choses.
Tout ce qu'on cherche, il faut avancer. L'appétit vient en mangeant.
À l'issue de cette session, les chefs de file de la médiation internationale et président du CSA, Ramtam Lamamra, a invité les parties maliennes à s'engager davantage dans la mise en œuvre diligente, effective et intégrale des dispositions de l'accord.
Reportage signé Maman Baba Kunta. 427 tonnes de riz ont été distribuées ce week-end à plus de 15 000 ménages vulnérables du cercle de Yorosso. Ce geste du gouvernement malien vise à soutenir ses ménages en cette période de soudure. Chacun a reçu 3 sacs de 50 kg de céréales. Les bénéficiaires se réjouissent de cette donation. Notre correspondant Yorosso Ali Aïdra a été sur place lors de cette distribution.
Cette donation du gouvernement entre dans le cadre de sa distribution alimentaire gratuite aux populations vulnérables. Selon les autorités administratives du cercle, la distribution se fait dans les normes. Bakary Keïta, préfet adjoint du cercle de Yorosso.
Il y a eu des phases d'identification des ménages. Les dons sont destinés aux ménages vulnérables. C'est pour faire face effectivement à la période de soudure, à l'endroit des vulnérables. Donc c'est le peu qu'on a pu apporter vraiment à leur disposition.
Quant aux bénéficiaires, ils n'ont pas caché leur satisfaction. Ils estiment que cet appui vient au bon moment.
Le riz a été donné au bon moment. Grâce à ça, les membres de ma famille trouvent à manger nuit et jour. Sinon, il n'y avait rien à manger chez moi. J'étais très inquiet, mais aujourd'hui, j'ai été appelé pour me donner 3 sacs de riz.
Si tu as vu qu'il y a des dons, c'est la pauvreté. On demande à Dieu de nous aider à avoir ce qui nous suffit nous-mêmes. Mais ça, c'est un bonheur pour nous. Mais ce n'est pas notre souhait.
La période de soudure est un moment difficile. Les autorités invitent les populations de faire bon usage de ces céréales. De Yorosso, Ali Haïdara pour Studio Tamani.
8h09 à Yorosso, au Mali, la consommation du café prend de l'ampleur selon les médecins. Le café joue un rôle très important pour la santé. Ils expliquent que le café protège le corps contre le phénomène d'oxydation et lui apporte des vitamines et des micronutriments. Toutefois, ils préviennent que la consommation abusive du café et son mélange avec d'autres éléments comme la drogue est nocive pour la santé. Le reportage de Fatoumata Maïga.
Les vertus du café sont multiples, expliquent les consommateurs. Cependant, ces derniers regrettent la cherté actuelle du prix du produit sur les marchés et les gargotes.
Le marché est un peu bon. Le café est cher, le sucre aussi. De nos jours, nous gagnons peu de bénéfices.
Je prends du café plus de 20 ans. Quand je prends le café, ça me met en forme.
Je conduis une moto-taxi. Quand je prends le café avant de sortir, je n'ai plus besoin de manger pour le reste de la journée.
Pour Ibrahim Sissogo, médecin nutritionniste, certes, le café apporte des éléments nécessaires au corps, mais sa consommation excessive est également dangereuse pour le cœur.
Le café contient des antioxydants qui vont protéger notre organisme contre le phénomène d'oxydation. La caféine consommée modérément n'entraîne pas d'effets indésirables. La consommation excessive de café peut agir sur les fonctions du cœur.
À noter que les spécialistes de santé recommandent aux femmes enceintes de limiter la dose du café à 2 tasses par jour.
Parlons sport à présent, football, championnat d'Afrique des Nations, CHAN Algérie 2023. Les aigles locaux ont validé leur ticket samedi dernier à domicile. Ils se sont imposés devant la Sierra Leone 2-0. Au même moment, les aigles juniors sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi UFOA U20 en Mauritanie. Les explications avec Oumar Waïgalo.
Le Mali, vice-champion d'Afrique, a obtenu son ticket de qualification face à la Sierra Leone. Les aigles locaux ont battu la Sierra Leone sur un score de 2-0 au stade du 26 mars à Bamako, au compte du match retour. À l'aller, les hommes de Nouhoum Diané se sont imposés par 2-1 au stade de Monrovia. Ainsi, le Mali est qualifié pour la 5e fois à la phase finale du CHAN. Le tirage au sort est prévu pour le 1er octobre à Alger. Pour rappel, la phase finale du CHAN 2023 aura lieu du 8 janvier au 5 février 2023 en Algérie. Pour la première fois, 18 pays sont attendus à cette édition. Ils seront répartis en 3 poules de 4 et 2 poules de 3. Le Mali, 2 fois vice-champion d'Afrique, tentera de gagner son premier trophée pour la 7e édition. Par ailleurs, les aigles juniors sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi IFOA U20 Nouakchott 2022. Le samedi dernier, ils ont battu la Guinée-Bissau par 2-0. Les aiglonais vont connaître leur adversaire des demi-finales dans les prochains jours.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
À 8h passées de 13 minutes se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la réécouter sur notre site sudotamani.org ou en appelant sur Viamo au 37 321. L'insalubrité dans la ville de Menaka, située dans la région de Ségou, est dénoncée par des habitants de la localité. Ces derniers estiment que cette situation est à la base de plusieurs maladies. Le maire de la commune rappelle que les responsabilités sont partagées. Il assure aussi que la mairie est à pied d'œuvre pour mettre fin à cette situation. Le magazine Parlons de l'environnement est présenté par Maman Babakunta.
Le magazine Parlons de l'environnement.
Dans la ville de Massina, l'état d'ordure se multiplie aujourd'hui dans les rues. Les eaux usées se retrouvent aussi dans les fleuves Niger. Ces constats sont faits par des citoyens de la localité. Certains d'entre eux réagissent au micro de notre correspondant sur place, Sekou Abdelkader Traoré.
Du fait que Massina soit sale, la première responsabilité incombe même de la population.
Oui, Massina est sale. Il y a les mosquées partout. Pendant la saison, la pluie, il y a de l'eau partout, pas de carimbo. Vraiment, nous les femmes sommes fatiguées. Les rues de Massina sont sales. Les ordures sont partout. C'est les populations qui sont à la base de cette saleté.
Je peux dire que nous sommes tous responsables. Parce que si nous prenons le maire est élu par un ensemble de conseillers, par la même population. Et cette population devrait intervenir, soit à travers des juges, soit à travers des organisations de jeunesse pour intervenir de façon à rendre vraiment la ville éco-quête. Mais si cela ne se fait pas, et tout le monde, par exemple, baisse les bras, donc forcément, il y aura cette situation désastreuse qui serait créée. Et si tout le monde balayait devant sa porte, vraiment, on ne serait pas là.
Cette insalubrité à Massina est aussi confirmée par le maire de la commune, Mourzouk Yatara. Il estime que c'est devenu un véritable casse-tête. Toutefois, pour Mourzouk Yatara, tout le monde est fautif. Citoyens comme élus locaux, dit-il. Le maire est au micro de notre correspondant, Sekou Abdoulkader Traoré.
Aujourd'hui, chacun ne veut pas fournir un effort pour pouvoir vraiment dégager vraiment les saletés ménagères, dégager vraiment de chez soi. Chacun trouve le moyen vraiment de les déverser directement dans les rues ou derrière les maisons vraiment d'autrui. Les différents responsables vraiment c'est nous-mêmes. L'agent de l'assainissement et la mairie sont à pied d'œuvre.
Les déchets domestiques, notamment les sachets et bouteilles, sont des sources de pollution. Abdramane Sanogo, du bureau de Tide Sahel Environnement, souligne également que ces déchets brûlés produisent du gaz nocif et toxique pour les autres humains.
Et il n'y a pas que les déchets plastiques. Il y a énormément de déchets dans les rues de Kemasina, l'un des premiers cercles de ce pays. Les responsabilités sont réellement partagées. Mais moi, je pense qu'au premier chef, il faudrait incriminer les services techniques de la localité, puisque c'est eux qui ont été formés pour ça. C'est leur travail et ils sont là-bas pour cela. Ils devraient, après avoir constaté cet état de fait, alerter les élus locaux afin qu'ils prennent des dispositions ensemble. Donc si cela n'a pas été fait, on ne peut que faire des reproches aux services sanitaires. Et vu la situation, je crois qu'il est urgent de prendre certaines décisions. Ne serait-ce que quelques GIE dans la ville pour enlever les ordures. Pour le moment, pas besoin de recyclage, ils peuvent aller par étapes. Mais le plus difficile, c'est de commencer, c'est d'installer les poubelles dans la ville, sensibiliser la population à l'usage de ces poubelles-là et qu'il y ait un GIE organisé ou des GIE organisés pour le retrait de ces ordures-là et les amener à un dépôt que la mairie doit réellement les indiquer.
Il faut également l'implication à hauteur des souhaits des autorités communales et coutumières dans la lutte contre l'insalubrité, ajoute l'environnementaliste Soumaïla Cissé.
Le chef de village et ses conseillers doivent aussi participer à la mobilisation de la population pendant les journées de salubrité ou bien même organiser des campagnes de salubrité dans les différents carrés, dans les différentes villes, etc. Et aussi, les autorités doivent s'impliquer beaucoup plus pour sensibiliser la population de l'importance de la protection et de la promotion de l'environnement. Et troisièmement, l'implication des plus hautes autorités, je parle ici du ministère même de l'éducation, pour intégrer le comportement éco-environnemental, c'est-à-dire intégrer un module spécialement pour montrer aux enfants l'importance de la protection et la promotion de l'environnement.
C'est ce qui me fait à ce magazine Parlons de l'environnement, réalisé et présenté par Mahamane Baba Kunta. À la semaine prochaine pour un autre numéro.